La journée finit bien sur Radio Lac
avec Benjamin Smadja.
Ça y est, elle est arrivée la programmation de ce festival. Vous savez, on va déambuler au bord des quais avant de profiter de la musique du Montreux Jazz Festival. Je suis avec Léna Vuimier et surtout avec le taulier de ce Montreux Jazz Festival. Bonjour Mathieu Jaton.
Salut. Ça faisait un moment que j'avais pas entendu le taulier.
Ça fait une année à peu près, hein.
Ça fait une année à peu près, oui.
Ça y est, donc cette programmation qui est lancée, on va peut-être, parce qu'on a déjà discuté avec programmateurs et programmatrices un peu plus tôt, mais moi je suis obligé de poser une question que je trouve dingue. À quel moment on a Dionne Warwick et on dit « Hey Dionne Warwick, j'ai pensé à vous pour une salle de 1300 places, c'est unique dans le monde cette affaire ».
Je me demande à quel moment quelqu'un allait me poser cette question. Mais parce que oui, et puis c'est cette irrationalité de Montreux que j'adore. Et c'est de présenter des artistes majeurs dans des écrins, des petits écrins. Il y en a de la même sur la scène du Lac. Hein. Vous avez des artistes qui font aujourd'hui du 15 000, du 20 000, du 50 000 et qui jouent devant 5 000 personnes. Mais oui, avoir Dionne Warwick, la légende soul qui en plus n'est jamais venue à Montreux, et de l'avoir au casino dans une petite salle de 1300 places, c'est des moments incroyables. Et je vous avoue, en fait, c'est ces moments qui nous font vibrer. D'ailleurs, quand j'en parle, j'ai presque la chair de poule. Parce que quand la confirmation arrive, on se dit... Waouh, ben ça c'est ce que j'ai toujours aimé à Montreux, c'est ce côté un peu irrationnel parfois, mais qui est tellement beau finalement musicalement.
Là c'est une édition un petit peu spéciale puisqu'on n'a plus ce mythique de M2C, donc comment on fait finalement pour proposer quelque chose d'aussi incroyable que les autres années mais avec un autre décor?
Oui, alors ça c'était la question de départ. En fait, on est parti en disant, ok, on veut rester à Montreux. On veut rester dans un format similaire, dans une taille similaire, mais il faut qu'on crée l'exceptionnel, parce que le plus gros risque quand vous faites ça, c'est que les artistes vous disent, ah bah t'as pas le Stravinsky ou le Lam, donc finis tes travaux, puis on reviendra une fois que ça sera terminé. Donc on est parti en disant, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'exceptionnel sur la scène? C'est évidemment le Lac. On l'a testé en 2021, vous nous avez senti venir en fait en 2021 quand on a fait cette scène. Alors ça a des défis incroyables, mais ce qui est le résultat, c'était de voir qu'aucun artiste, aucun agent, aucun manager n'a refusé en fait notre proposition. Des fois ça marche pas parce qu'ils sont pas dans les bonnes dates, pas la bonne tournée, pas le bon argent, etc. Mais en fait personne ne s'est dit, ah mais il n'y a pas le Stravinsky donc je viens pas, je vais sur la scène du Lac. À tel point que même certains se sont dit, mais quand le 2MDC va être prêt, vous allez vraiment revenir au Stravinsky? Donc ça nous a réjouis. Puis après on s'est dit, ben deuxième salle. Évidemment, on était très attendu au casino. Le retour au casino, c'était un peu comme une évidence, mais on le voulait différent. On voulait que le casino reste cette salle de musique, j'ai plus qu'émergente, mais contemporaine, dont tous les styles, avec une sorte de ligne conductrice entre les légendes. On a parlé de Dionne Warwick, Nick Mason, Mathieu Chédid, avec Thibaut Covin, Azaf Avidan, donc des gens très établis. Et puis la nouvelle génération urbaine, qui se trouve dans cette configuration assise, debout, podium, qui amène le public dans une atmosphère musicale très très différente. Et c'est ça que j'aime, c'est un peu casser une sorte de barrière comme ça, dire pourquoi on peut pas écouter du hip-hop assis. Quand je prends du Yamé, on l'a fait au Villard Palace récemment dans le cadre des Spotlights, c'était sublime, sublime. On était assis autour des petites tables et ça donne des moments qui sont assez géniaux. Et j'aime bien ça un peu des fois aller chercher une tangente, surtout quand on fait un nouveau setup comme ça.
C'est toute la dichotomie hein, du Montreux Jazz Festival, c'est aller chercher des tangentes et faire des associations qui semblent presque tomber sous le coup du bon sens. Je pense au 15 juillet, R, puis qui tourne avec son premier album, hein, qui était juste incroyable. La French Touch, c'était la définition de la French Touch, Moon Safari de R, et Massive Attack ensuite. Il y a plusieurs soirées comme ça qui se répondent.
Oui, c'est vraiment, on le sent, c'est la signature cette année, hein, c'est vraiment chaque fois des plateaux avec deux artistes qui vont soit se répondre, soit être dans la complémentarité, soit être dans une sorte de dualité, mais où on retrouve des racines musicales. Je pense à Paolo Nutini et Jesse Ware, je pense à Ray et Janelle Monae, je pense, alors dans la complémentarité parfaite, Deep Purple, Alice Cooper, alors là on est, voilà, c'est l'autoroute en fait, ou PG Harvey and the National, et là on sent en fait toutes ces constructions. C'est pas toujours chose facile parce qu'il faut que les deux artistes soient disponibles en même temps, qu'ils soient disponibles sur la même date et puis qu'on arrive à monter la soirée comme ça entre deux. Et puis moi c'est ces plateaux que j'aime beaucoup. Je prends peut-être le dernier du casino par exemple qui pour moi fait partie des coups de cœur. D'un coup on a Selassou, c'est super, nouvel album, hyper intéressant, etc. Et devant on va mettre The Sacred Soul qui est pour moi les nouveaux Tedeschi Brothers qu'on a présenté l'année passée ou les nouveaux Black Puma, et on adore en fait greffer ces petites pépites. Vous avez peut-être vu sur la scène du lac aussi, vous avez la légende de l'électro-kraftwerk et puis devant, vous avez Roisin Murphy. Et ça, c'est super intéressant. Et honnêtement, c'est ce qui nous fait un petit peu kiffer quand on est programmateur, c'est de faire ce genre de choses.
Bon, je précise, si vous n'avez jamais vu Roisin Murphy sur scène, allez-y, elle va se changer trois fois, elle va arriver avec des choses improbables. C'est fou, c'est une expérience de voir Roisin Murphy sur scène. Et ça ne sera que la moitié de cette soirée sur la scène du lac. C'est dire aussi l'aura hein, du Montreux Jazz Festival. Alors, c'est une question un peu récurrente, mais on le sent le poids sur les épaules ou on arrive à s'en défaire?
On l'a toujours, on sent l'attente, surtout sur une année comme ça, quand même on change tout le setup 2024, on sait que c'est une année 2024, on a beaucoup parlé de ces années post-Covid, hein, où 2023 c'était un petit peu, ouah, tout le monde revient, tous les artistes tournent parce qu'ils avaient leur tournée de 2020-2021 qui ont été reportées, 2023 on sent tous les festivals encore qui peuvent se servir parce qu'il y a beaucoup d'artistes, 2024 on sent une tension qui arrive parce qu'on voit beaucoup moins d'artistes sur la route, beaucoup moins de variétés, etc. Et puis quand on arrive à livrer une partition comme celle-là, sur laquelle on fait corps, sur laquelle on sent qu'on est... vous voyez quand je suis sur scène et que je la présente, je la vis, mais de toutes mes tripes, quoi, en fait.
Je vais être franc, j'ai une ou deux petites vidéos de Mathieu Jaton qui se déhanche en écoutant la même musique que nous.
Et si vous avez remarqué, ça peut être de l'électro, ça peut être du jazz, ça peut être du rock, ça peut être du hip-hop, parce qu'en fait, parce qu'on les aime tous. Et puis moi, c'est ça la musique, c'est qu'il ne faut plus mettre de barrières, il faut arrêter les stéréotypes, il faut quand on regarde ce que font les musiciens aujourd'hui, comme ils transgressent les genres, comment ils collaborent ensemble. Vous avez vu ce qui est en train de se passer avec Coachella, en fait, avec des artistes majeurs qui sautent sur la scène avec un autre, quand vous avez Billie Eilish qui rejoint Lana Del Rey, des choses comme ça. C'est ça, la musique aujourd'hui. C'est cette transmission, ce partage qui fait des moments incroyables.
Mais il y a quand même un coup de cœur, une artiste que vous avez mise en avant plus que les autres, c'est Ray. Pourquoi?
Ouais, j'ai eu la main lourde, là. Oui, mais parce que Ray, pour moi, elle incarne complètement ce qu'on adore. C'est-à-dire que ces artistes... dans l'extrait que vous avez vu, qui était la prestation de Brit Award, qui est magique, en fait. Elle part en jazz. Ensuite, elle dérive sur de la soul. Vous avez un rythme très hip-hop derrière. Et après, elle repart sur des vocalises avec une voix posée, incroyable, assumée. Et surtout, vous voyez le bonheur de cette femme qui joue, qui est transmise. Regardez, j'ai encore les frissons quand je parle d'elle. Et puis surtout, quand on voit une artiste comme ça va être depuis l'année passée ou deux ans que David et Rémi la suivent. Et là, elle a annulé l'année passée, elle revient cette année. On sent qu'elle gagne 6 Brit Awards la même année, donc elle dépasse le record de Adele et Amy Winehouse. Et là, on se dit, il y a un truc qui s'est passé. Est-ce que ça viendra la nouvelle Dua Lipa qui avait joué à Montreux en ouverture de Meuse? Est-ce que ça viendra la nouvelle Ed Sheeran qui avait joué en ouverture de Chris Cornell? Là, c'est Ray qui ouvre pour Janelle Monae. Donc, on lui souhaite un avenir aussi radieux que tous les autres. Mais c'est vrai qu'on aime bien mettre ce genre de focus parce que c'est des artistes qui nous touchent profondément.
Quelque chose d'assez unique, alors on le sait avec le Montreux Jazz Festival, ce sont des salles qui ne sont pas grandes pour des festivals, même si là il y a quelques places en plus, alors Scène du Lac, 5480 places, je le dis pour le vaudois que vous êtes, le casino 1307 places, vous parliez de Coachella, alors on compte même plus le nombre de spectateurs qu'il y a à Coachella, vous parliez d'une année 2024 sous tension avec des artistes qui tournent, mais il faut arriver à les saisir au bon moment. En même temps, le Montreux Jazz Festival s'internationalise avec une édition à Miami parrainée, je ne sais pas si c'est le bon terme, par l'incroyable John Baptiste. C'est quoi l'avenir des festivals de musique et encore plus chez nous?
C'est difficile à dire, on est dans un monde en mouvance totale, je vais essayer de résumer parce qu'on pourrait y passer des heures, mais on sent deux grandes mouvances, hein. Une mouvance du giga entertainment music business, c'est les Coachella, c'est les Glastonbury, c'est les tournées de Taylor Swift qui pèsent $1 milliard, c'est les tournées de Coldplay, c'est les tournées d'Ed Sheeran, 350 concerts, 10 millions de billets vendus, on est dans les stratosphères, on est dans des trucs hallucinants avec des cachets qui sont et ça on sent qu'on est de ce que j'appelle le entertainment live music business. On va avoir plus qu'un concert, on va avoir un show avec des écrans partout, avec des danseurs, des chanteuses, etc. C'est le cas de Coachella qui le fait magistralement bien. Et puis, parallèlement, c'est toujours ça qui est intéressant quand il y a une évolution un peu dans les extrêmes, c'est qu'il y a un retour aux sources, un retour au jeu, à la petitesse, à l'intimité, à la proximité, à des artistes qui se disent « Ok, je fais des gigaproductions, là j'ai des écrans mais je dois balancer un nombre de hits, et puis derrière je me fais plaisir et puis je fais des petites salles à Montreux ». Rappelez-vous Muse, quand ils ont fait leur dernière tournée, ils avaient fait des grands stades, des choses comme ça, et tout d'un coup, paf, ils viennent à Montreux, ils sont juste les trois. Mathieu Bellamy vient me voir, il me dit « Mais t'es sûr que je peux faire ce que je veux à Montreux ?» Et fait que des B-sides. Il fait que des chansons qui sont pas les hits. Alors le public parfois un peu déstabilisé, mais la majorité disait wow, là on est en train de vivre un truc incroyable. Et pour moi c'est une évolution du marché qui se complexifie dépendant du positionnement de chaque festival. Donc je pense que chacun va devoir se poser des questions. On est qui, on se positionne comment, on s'adresse à qui. C'est pour ça que je vous ai beaucoup parlé de messages aujourd'hui, je vous ai beaucoup parlé de valeurs. Et on voit hein, en Suisse romande des festivals super bien positionnés avec des valeurs très claires. Vous prenez le QI Jazz, vous prenez le Festineux, vous prenez Paléo, ils performent tous parce que le message est méga clair. J'espère que ça sera le cas pour Montreux aussi. Puis vous regardez à l'international, c'est la même chose. Vous avez des Wheel of Green à Paris qui sont des festivals très bien positionnés. Donc il y a beaucoup de festivals, mais il y a un travail de positionnement et de marketing un peu plus important et de messages pour pouvoir évoluer dans ce marché. Je vous rappelle quand même qu'en 20 ans, on a quasi décuplé le nombre de festivals et de performances, des artistes qui tournent et qui tournent, qui deviennent donc moins rares. Et donc comme ils deviennent moins rares, ils doivent avoir plus de production parce qu'ils doivent créer quelque chose de nouveau puisqu'ils n'ont pas de nouvel album. Qui dit plus de production dit plus cher. C'est pas spécialement le cachet de l'artiste, c'est la production qui devient plus chère. Et là, vous arrivez en fait une cassure du marché. Faut faire attention au prix. Est-ce que pendant combien d'années les gens vont être d'accord de payer 180, 200 francs, voire 300 francs pour aller voir Pink ou Ed Sheeran, etc. Donc il faut être attentif à ça. C'est Montreux qui dit ça. On n'est pas considéré comme les moins chers, mais on essaie de faire toujours attention à ça et d'avoir une écoute du public. On parle beaucoup à notre public, on essaie de l'entendre. Et puis c'est de livrer une partition la plus honnête, la plus authentique possible par rapport à notre ADN.
C'est aussi le fait d'arriver à proposer des soirées, mais ça c'est l'histoire de Montreux, des soirées avec des tarifs que je dirais parfaitement acceptables et même peu chers, moi j'ose le dire, pour découvrir deux artistes, par exemple anciennement au Lab, demain à la scène du Casino, et d'avoir des soirées rares, uniques, qui elles coûtent beaucoup plus cher. On arrive à satisfaire tout le monde. Moi, j'ai vécu des concerts à 80 francs, aujourd'hui vous n'allez plus voir un concert pour 80 francs, alors que j'ai vu deux artistes de dingue à Montreux.
Oui, c'est ce que je disais dans la cohérence et l'authenticité dans laquelle il faut faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous dites, ok, elle est où la rareté? C'est pas parce que c'est rare qu'il faut massacrer sur le prix. Il faut être cohérent par rapport à ça. Mais aussi, c'est de considérer que quand on va dans un open air, on va vivre une expérience musicale, on va avoir plusieurs scènes. On va peut-être pas tout voir, mais on va vivre une expérience, on va s'immerger dans un univers. Quand on vient à Montreux, on choisit une soirée. Sur une soirée où il y a deux artistes qui sont majeurs. Et c'est toujours nous de savoir, est-ce que le prix est juste? Est-ce que le public va accepter ce prix-là? Par rapport à l'exceptionnalité de la soirée, ou est-ce que là on devra aller taper trop, donc on abandonne. Cette année, il y a quelques artistes, on s'est dit, ok, on n'y va pas. C'est des artistes qui explosent en Amérique du Sud, aux États-Unis, qui sont des cachets extraterrestres, et je dis, mais faire un prix à 180 francs pour la scène du lac, ben là, ça va pas jouer pour ce public-là. Sur d'autres, je vais le faire. Je veux dire, quand on est sur une soirée d'Alice Cooper ou de Deep Purple, et que vous payez 138 francs pour aller voir ce concert, bah pour moi, je dis, c'est tellement unique et c'est tellement exceptionnel que le prix me semble juste. Après, c'est le public qui décide à la fin, c'est pas nous.
Comme je disais, le seul meilleur artiste qu'Alice Cooper, ça aurait été Frank Zappa, mais il n'était pas disponible. Pour
son fils.
pour terminer, donc cette parenthèse avec cette scène du lac, ce retour au Casino, est-ce que c'est aussi des pistes pour l'avenir ou est-ce qu'on sait comment va se refermer la parenthèse?
Non. On ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. Et vous nous avez vus depuis 2019, avec le stade Elton John, avec la scène du Covid, avec le retour d'après Covid. Je pense que toute expérience doit être vécue à fond. Et peut-être que ça donne en fait des apprentissages pour le futur. Je ne sais pas ce que va être 2026. La seule chose, je sais qu'on retourne au centre des congrès, qu'on va fêter le 60e anniversaire. Est-ce que les expériences qu'on va vivre au Casino ou même sur les jardins au centre de Montreux vont être tellement incroyables qu'on va dire qu'on le refait? Il y a beaucoup de points d'interrogation, mais on s'interdit rien, en fait. Et je crois que vous nous connaissez depuis le temps à Montreux, c'est que ce qu'on aime le plus, c'est cette agilité, c'est de changer, d'évoluer, de faire bouger le festival au fur et à mesure que son public et les artistes. Et puis finalement, c'est ça qu'on adore. C'est pas très reposant, mais finalement, on adore ça.
Voilà donc pour la programmation payante. D'ailleurs, quand on regarde, il y a beaucoup plus de scènes gratuites que payantes, mais la programmation gratuite, ça sera un peu plus tard. Mathieu Jaton, merci.
Merci à vous, un grand plaisir.
Avec Benjamin Smadja sur Radio Lac,
la journée finit bien.